l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 6. Les opprimés domestiques. Première partie. On peut, à la lecture des récits historiques officiels, ignorer totalement la moitié de la population des États-Unis. Les explorateurs étaient des hommes, les propriétaires terriens et les négociants étaient des hommes, les personnalités politiques et les chefs militaires également. L'invisibilité même des femmes, le fait de ne pas tenir compte de leur présence, est le signe criant de leur statut d'infériorité. Cette invisibilité les apparente en quelque sorte aux esclaves noirs, les esclaves femmes subissant donc une double oppression. Les particularités biologiques de la femme, au même titre que la couleur de peau ou les caractéristiques physiques du visage des noirs, offraient un argument pour la traiter en inférieure. Bien sûr, les femmes présentaient une spécificité biologique d'une plus grande importance pratique que la couleur de la peau. Elles enfantent. Cela ne suffit pas, néanmoins, à expliquer la situation subalterne de toutes les femmes dans la société. Y compris celles qui n'avaient pas d'enfants ou étaient soit trop jeunes, soit trop âgées pour cela. Il semble que leur spécificité physique ait présenté un intérêt pratique pour les hommes qui pouvaient ainsi utiliser, exploiter et chérir quelqu'un qui était à la fois une domestique, une partenaire sexuelle, une compagne et, concernant leurs enfants, en même temps une mère, une éducatrice et une gouvernante. Les sociétés fondées sur la propriété privée et la compétition, pour lesquelles la famille monogame fait figure d'unité fonctionnelle dans l'organisation du travail comme dans l'organisation sociale, ont jugé fort utile d'attribuer ce statut spécial aux femmes. La femme est alors une sorte d'esclave domestique au carrefour de l'intimité et de l'oppression qui pourtant, en raison de cette intimité et des liens qui l'attachent durablement aux enfants, est l'objet d'un paternalisme spécifique susceptible, en fonction du rapport de force, de tendre vers une certaine égalité. Une oppression si intime qu'elle se révélera très difficile à déraciner. Dans les sociétés plus anciennes, en Amérique ou ailleurs, la propriété était plus ou moins collective et les relations familiales aussi étendues que complexes. Les oncles, tantes et grands-parents vivant avec la famille. Ces sociétés semblent avoir traité les femmes de façon plus équitable que les sociétés blanches qui allaient plus tard les envahir et leur apporter, avec la civilisation, la notion de propriété privée. Chez les tribus Tsuni du sud-ouest américain, par exemple, la famille élargie, en réalité des clans assez vastes, reposait sur la femme dans la famille de laquelle le mari venait s'installer. Les femmes étaient censées posséder les maisons et les terres appartenant au clan. Les femmes et les hommes avaient un droit égal sur les biens produits et la situation de la femme était mieux assurée puisqu'elle vivait dans sa propre famille et était autorisée à divorcer dès qu'elle le souhaitait, tout en conservant ses biens. Les femmes des tribus indiennes des plaines du Midwest ne participaient pas aux tâches agricoles, mais tenaient néanmoins une place essentielle en tant que guérisseuses, herboristes et même, parfois, en tant que personnes sacrées qui donnaient des conseils. Lorsque les clans perdaient leur chef homme, les femmes pouvaient être amenées à le remplacer. Elles apprenaient à tirer avec des petits arcs et portaient également des poignards, car chez les Sioux, une femme devait pouvoir se défendre elle-même contre les agressions. Il serait bien entendu exagéré de prétendre que les femmes indiennes étaient traitées sur un pied d'égalité avec les hommes. Mais elles inspiraient le respect, et la nature communautaire des sociétés indiennes leur conférait une place plus importante que dans les sociétés blanches. Les conditions dans lesquelles les colons blancs arrivèrent en Amérique créèrent une diversité de situations pour les femmes. Dans les premières plantations, constituées presque exclusivement d'hommes, les femmes étaient importées comme esclaves sexuelles, comme compagnes et pour enfanter. En 1619, année de l'arrivée des premiers esclaves noirs en Virginie, 90 femmes débarquèrent également à Jamestown.
De jeunes personnes agréables et pures, vendues avec leur consentement comme épouses aux colons pour prix de leur traversée.
De nombreuses autres femmes, des adolescentes le plus souvent, arrivèrent dans les premières années en tant que servantes sous contrat. Elles vivaient dans des conditions proches de l'esclavage, si ce n'est que leur service avait un terme. Elles étaient tenues d'obéir à leur maître et maîtresse. Les auteurs de America's Working Woman, Baxendale, Gordon et Riverby, nous apprennent qu'elles
étaient peu payées et bien souvent traitées assez durement, manquant de nourriture saine et d'intimité. Ces terribles conditions de vie provoquèrent parfois certaines résistances. Mais, vivant dans des familles différentes et sans grand contact avec leurs semblables, leur résistance ne pouvait être que passive. Chercher à en faire aussi peu que possible et créer quelques difficultés à leurs maîtres et maîtresses. Ces derniers, bien sûr, ne l'interprétaient pas ainsi et considéraient le comportement de leurs domestiques comme de la paresse, de la mauvaise volonté, de la stupidité et comme le signe d'un caractère obtus.
Les abus sexuels des maîtres sur la personne de leurs domestiques femmes se firent de plus en plus fréquents. Les archives judiciaires de Virginie et d'autres colonies font état de plusieurs maîtres accusés de ce délit. Ces quelques cas devaient être particulièrement flagrants, et on est en droit de penser qu'en de très nombreuses occasions, ces crimes n'ont jamais été rendus publics. En 1756, Elizabeth Spriggs se plaint dans une lettre adressée à son père.
Ce que nous, infortunés britanniques, souffrons ici est impossible à concevoir pour vous en Angleterre. Il suffit de dire que je suis au nombre de ces malheureuses et trime pratiquement jour et nuit dans les écuries, le plus souvent et dans des conditions insupportables. Parfois je suis attachée et fouettée comme ne le serait même pas un animal. Presque rien à manger, que du maïs indien et du sel. Et même ça, on nous le chipote. Les nègres sont mieux traités. On est presque nu, sans chaussures ni bas. Quand on peut se reposer, on s'enroule dans la couverture et on s'allonge à même le sol.
Tout ce que l'on peut imaginer sur les transports des esclaves noirs vers l'Amérique devait être plus terrible encore pour les femmes noires, qui constituaient souvent un tiers de la cargaison. Linda Brent, une esclave évadée, évoque un autre genre de fardeau.
J'entrais alors dans ma 15e année, triste période dans la vie d'une esclave. Mon maître commença à me dire des mots crus à l'oreille. Même jeune comme je l'étais, je ne pouvais pas ne pas comprendre de quoi il s'agissait. Mon maître était toujours dans mes jambes, me rappelant que je lui appartenais et jurant sur le ciel et la terre qu'il m'obligerait à me soumettre à lui. Si je sortais pour respirer un peu d'air frais, après une journée de travail harassant, le bruit de ses pas me poursuivait. Si je m'agenouillais sur la tombe de ma mère, même là, son ombre noire me tombait dessus. Le cœur léger que la nature m'avait accordé devint lourd et gros de tristes pressentiments.
Même les femmes blanches libres, qui n'étaient pas arrivées comme servantes ou esclaves, mais comme épouses des premiers colons, menaient une vie particulièrement dure. 18 femmes mariées étaient arrivées avec le Mayflower à l'automne 1620. Trois d'entre elles étaient enceintes, dont une accoucha d'un enfant mort-né avant d'arriver en vue de la terre. Les maternités et les maladies frappèrent durement ces femmes. Au printemps 1621, seules 4 de ces 18 femmes vivaient encore. Celles qui survécurent et participèrent aux côtés de leurs maris à l'organisation de l'existence dans ces contrées sauvages étaient traitées avec respect tant on en avait besoin. Lorsque les hommes mouraient, les femmes reprenaient souvent leur travail. Pendant un peu plus d'un siècle, hommes et femmes vivant sur la frontière américaine parurent vivre dans une certaine égalité de conditions. Mais toutes ces femmes restaient victimes des préjugés importés d'Angleterre avec les premiers colons, marqués par une éducation chrétienne. La loi anglaise en ce domaine était résumée dans un document datant de 1632 et intitulé « Décret législatif sur les droits des femmes ». On peut y lire que
« Dans cette union que nous appelons les liens du mariage, Il est question d'un lien entre les deux individus. Il est vrai que le mari et la femme sont une seule et même personne, mais il faut bien comprendre en quel sens. Lorsqu'un ruisseau ou une rivière rejoignent le Rhône, la Tamise ou l'estuaire du Humber, le mince filet d'eau perd son nom. Ainsi, aussitôt qu'une femme est mariée, on dit qu'elle est covert, c'est-à-dire comme voilée. En quelque sorte, elle est en retrait, dominée. Elle a perdu son courant propre. Je pourrais, pour mieux me faire comprendre, déclarer à la femme que son nouveau soi est son supérieur, son compagnon, son maître.
Pour une femme, donner naissance à un enfant hors des liens du mariage était considéré comme un crime. Les archives des tribunaux coloniaux sont remplies de cas de femmes accusées de bâtardisation. Le père de l'enfant, lui, ne tombant pas sous le coup de la loi. Une publication périodique de 1747 reproduit le discours de Mademoiselle Polly devant la cour de justice du Connecticut, près de Boston, en Nouvelle-Angleterre, où elle comparaissait pour la cinquième fois pour avoir donné naissance à un bâtard. Ce discours devait tout à l'imagination caustique de Benjamin Franklin.
Plaira-t-il à l'honorable cour de me laisser m'expliquer en quelques mots ? Je suis une pauvre et malheureuse femme qui n'a pas d'argent pour se payer des avocats pour plaider pour moi. C'est la cinquième fois, mes gentilshommes, que je suis traînée devant votre tribunal pour le même prétexte. Deux fois, j'ai dû payer de lourdes amendes et deux fois, j'ai subi une punition publique parce que je n'avais pas d'argent pour payer ces amendes. Cela peut convenir à la loi et je n'en discute pas. Mais puisque certaines lois sont parfois peu raisonnables en elles-mêmes, et donc peuvent être abolies, et que d'autres frappent trop durement certains cas particuliers, je prendrai la liberté de dire que je pense que cette loi, au nom de laquelle on me punit, est déraisonnable en elle-même et particulièrement sévère à mon encontre. Je n'arrive pas à concevoir la nature de mon crime. J'ai mis au monde 5 beaux enfants, au péril de ma vie. Par mon seul travail, je les conserve en bonne santé, sans rien devoir à la municipalité. Et j'aurais pu faire mieux s'il n'y avait pas eu ces lourdes amendes à payer. En outre, personne n'a la moindre raison de se plaindre de moi, sinon peut-être ces messieurs de la justice, parce que, comme j'ai eu des enfants sans être mariés, ils ne peuvent pas toucher la taxe sur les mariages. Mais est-ce que c'est ma faute à moi ? Que peuvent faire ces pauvres jeunes femmes dont il n'est pas dans la nature et à qui les coutumes interdisent de solliciter les hommes ? Et qui ne peuvent pas néanmoins forcer les hommes à les épouser quand la loi ne s'occupe pas de leur trouver un mari, mais les punit sévèrement si elles font leur devoir sans eux. Ce devoir que nous impose le premier, le plus grand des commandements de la nature que nous ait donné Dieu, croissez et multipliez. Un devoir de l'accomplissement duquel rien n'a jamais pu me détourner, mais à cause duquel j'ai pris le risque de perdre l'estime de tous et endurer régulièrement l'opprobre général et les châtiments publics. D'ailleurs, à mon humble avis, au lieu de m'administrer des coups de fouet, on devrait ériger un monument à ma mémoire.
Les pères fondateurs étaient-ils ces hommes justes et sages, cherchant à garantir un juste équilibre ? En fait, ils se souciaient peu d'équilibre. À l'exception peut-être de celui qui permettrait de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire un équilibre entre les forces dominantes de l'époque. Il ne souhaitait certainement pas rééquilibrer les rapports entre maître et esclave, entre possédants et démunis, entre indiens et blancs. La moitié de la population américaine, d'ailleurs, n'était même pas considérée par les pères fondateurs comme participant aux forces concurrentes de la société, selon Bailyn. On n'en faisait mention nulle part dans la déclaration d'indépendance. Elle était également absente de la Constitution et demeurait parfaitement invisible dans la nouvelle démocratie politique. Ces absents par excellence, ce sont les femmes de la jeune Amérique.
L'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.